Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, content de vous retrouver. Dans Samedi en France, je vous rappelle que chaque semaine sur Europe 1, nous partons à la découverte de sites remarquables, insolites, qui n'ont pas été inscrits sur les itinéraires traditionnels des voyageurs, en tout cas jusqu'à présent, après cette émission peut-être. Eh bien, nous sommes là avec Gavins, Clémenté Ruiz et toute l'équipe. Gavins, qui est ambassadeur du Guide du Routard, je vous rappelle quand même, pour vous y conduire dans ces sites-là et vous dévoiler les richesses naturelles de la France. On partira aujourd'hui en Haute-Saône. Visitez une chapelle unique dans notre pays, c'est la chapelle Notre-Dame-du-Haut, et vous verrez pourquoi elle est unique. Nous vous proposerons également de créer votre propre vitrail, non pas là, mais dans la belle ville de Chartres, et pour finir, direction la Haute-Savoie, pour un spectacle assez féerique que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais pour commencer cette émission, Gavins, vous avez posé vos bagages en Corrèze, c'est bien ça ?
Oui, bonjour William, je vous emmène à Travassac, c'est à 13 km au nord de Brive-la-Gaillarde, et à 4 km de Saint-Ferréol, c'est là que se trouvent les Pans de Travassac.
Les Pans, P-A-N-S.
P-A-N-S, oui, pas P-A-O-N-S. Hein.
Non, les Pans de Travassac. Qu'est-ce que c'est que ça hein?
Bah, c'est tout simplement l'une des dernières ardoisières de France. Alors, elle date depuis, elle a plus de 300 ans. Cette ardoise, elle est connue pour sa très grande résistance. On dit même qu'elle serait inaltérable.
Et où est-ce qu'on peut voir les ardoises des Pans de Travassac?
Eh bah, sur quasiment 50% des monuments historiques aujourd'hui.
Elle a alimenté 50% des monuments historiques français.
Il y en a même sur le toit de la basilique du Mont-Saint-Michel.
Oui, il faut que ça soit costaud et de bonne qualité, alors je suppose. Ouais,
carrément. C'est ça la particularité de cette ardoisière. C'est que le gisement d'ardoise ne se fait pas à l'horizontale, mais à la verticale.
Oui, alors ça, il faut expliquer. Hein. Parce que moi, j'ai des images de devant mes yeux, là. D'ailleurs, vous pouvez vous les procurer. Hein. Vous allez sur le site et vous allez comprendre ça. C'est que c'est spectaculaire, mais il faut expliquer comment c'est organisé.
Ben alors, si vous regardez ces fameux pans de Travassac, si on est vu du ciel, on s'élève, ça forme des pans d'ardoise assez fins. Ils sont espacés par le vide qui est creusé et recouvert de végétation. C'est assez spectaculaire et c'est très très beau. Si on est vu du sol, oui. Alors ça ressemble à des sortes de murs, des murs qui s'élèvent en hauteur, mis côte à côte, entre lesquels on peut circuler. C'est justement ce que nous vous proposons de faire aujourd'hui.
Moi j'ai la photo, donc je comprends ce que vous me dites. Mais pour nos amis qui nous écoutent, imaginez un millefeuille. Un millefeuille, c'est un gâteau, il est posé sur la partie
sur la
plus longue.
Ouais.
Et ben, vous le relevez, le millefeuille, et là, vous avez quelques feuilles espacées et chaque feuille représente...
C'est exactement
ça. C'est ça.
C'est magique.
Un pan d'ardoise. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut... C'est assez large. Entre deux pans d'ardoise, et il y a une passerelle et on se balade.
Et c'est ça. On va partir en balade au milieu de l'ancienne ardoisière.
Alors, vous voyez, on dit une ardoisière.
C'est ça.
D'accord. C'est très haut, hein.
C'est immense. Et, enfin, vous êtes tout petit quand vous êtes à côté, hein, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Parce que, en plus, c'est quand vous êtes au milieu de ces pans, vous êtes dans. C'est sombre, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, moi ce que j'aime, c'est la mousse, c'est toute
la
végétation
sur l'ardoise.
Qui est apparue au fur et à mesure et au fil du temps.
Bon, alors justement, nous sommes en ligne avec Laurence Via, qui est responsable du site des Pans de Travassac. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, donc, là, je ne me suis pas trompé avec David, ça va ? C'est assez clair
non.
Ce qu'on vient de dire ?
Parfaites bon. Vos explications.
Merci.
Bon, alors, quand on commence la visite, on pénètre entre les failles d'ardoise, c'est ça ?
Voilà, on rentre à l'intérieur du site. Effectivement, le site est composé de 7 filons d'ardoise sains qui ont été séparés par 6 parois verticales. Et ça, ces parois, c'est du stérile. Donc, le cheminement va se faire entre ces parois stériles. Tout ce vide, c'est le résultat de 300 ans d'exploitation par les hommes, en fait.
Mais c'est sans fin, parce qu'elle est encore en excellent état. Et il y a de quoi faire encore avec ce pan d'ardoise-là.
Voilà. Mmh. Alors, sauf que cette partie, nous, on l'a réaménagée à la visite. Et actuellement, on continue à travailler dans la suite du filon de l'autre côté de la route.
D'accord. Alors, effectivement, il y a des passerelles. C'est des passerelles en métal. On se déplace le long des pans, entre deux pans. Est-ce que c'est sécurisé, tout ça ? Tout le monde peut y aller ?
Tout à fait. On a l'habitude de recevoir des scolaires, aussi bien que des adultes. Tout est sécurisé. Il n'y a aucun aucun risque. Même les personnes qui souffrent de vertige n'ont pas peur. Et puis, les gens sont tellement pris par ce paysage unique qu'on ne pense pas à ce vide.
Non, je ne pensais pas, parce que il y a du vide en dessous, il y a du vide au-dessus, et puis de part et d'autre, il y a ces grands pans d'ardoise, c'est assez impressionnant. Mais on peut passer d'une faille, je ne sais pas s'il faut dire ce mot-là, on peut passer d'une faille à l'autre.
Tout à fait, on circule entre ces parois, on passe même à travers les perces.
Qu'est-ce qu'il y a en dessous, sous la passerelle? Parce que sur les photos, ce n'est pas toujours clair. Il y a du vide, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'eau,
il y a des puits, les hommes sont allés sortir de la pierre à plus de 100 mètres de profondeur. Donc, à certains endroits, il y a des puits qui font 50 mètres de profondeur et qui sont remplis d'eau de pluie actuellement.
Alors, je dis ça à nos auditeurs, parce qu'en dessous, vous avez 50 mètres de vide, et tout à fait en bas, les eaux stagnantes. Et puis, il y a 50 mètres au moins au-dessus aussi. C'est pour ça que
Exactement.
C'est très impressionnant, très impressionnant.
Ces parois verticales, elles font 50 mètres de haut à peu près. Oui. Alors elles sont magnifiques parce qu'elles sont très colorées. Elles ont des couleurs orange, jaune. Oui. Il y a de la mousse qui pousse, il y a de la végétation qui pousse. Et donc on se promène dans un paysage où c'est un mix entre le végétal et le minéral. Oui. Et c'est assez fabuleux.
Bah oui, c'est unique. Moi, j'avais jamais vu ça. On peut assister au travail des ardoisiers aussi?
C'est le clou du spectacle après cette balade fabuleuse dans le CID où on raconte l'histoire, la géologie, comment ça s'est formé. Après, on rencontre un ardoisier qui travaille d'habitude à la carrière et qui montre comment il travaille la pierre et comment il taille ses ardoises.
Ah oui, justement, parce que ça, c'est on ne sait pas avec quels instruments, comment il fait ça. Et ensuite, c'est découpé avec les petites tuiles en ardoise que nous connaissons, mais ça, c'est un autre travail un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a l'ardoisier qui sert de guide et c'est la fin du spectacle, comme vous le dites, c'est ça?
C'est la fin du spectacle. En fait, le travail de l'ardoise de Travassac n'a pas évolué depuis 300 ans. Ça, tout se fait manuellement. Il y a trois outils pour fabriquer ces ardoises. On les fabrique nous-mêmes à la carrière. Ces outils, on les forge. L'ardoisier, il montre comment il arrive à séparer la pierre et comment il taille ses ardoises, qui recouvrent tous les toits de la Corrèze, bien sûr, mais du Cantal, de l'Aveyron, de la Lozère, mais aussi des monuments historiques tels que le Mont Saint-Michel.
Bien sûr. Bon, merci pour cette description, Laurence.
De rien.
Bonne journée.
De rien.
Au revoir.
Avec grand plaisir. Et puis à bientôt en Corrèze.
À bientôt en Corrèze, bien sûr. Gavins, il y a un petit musée sur place, c'est pas tout. Hein. C'est très complet finalement cette
visite. C'est une visite très très riche, vous pourrez passer plusieurs heures. Vous verrez, ce musée, il n'est pas commun. Et là encore une fois, il faut monter quelques marches. C'est assez vertigineux, 120 marches. Et vous allez atterrir dans ce musée qui raconte toute l'histoire de l'ardoisière. C'est parfait pour compléter la visite.
Et on peut visiter ça en toute saison?
Alors en été, c'est visite guidée matin et après-midi. Et en mai, juin, septembre et octobre, en profitons-en, c'est le dimanche et les jours fériés, l'après-midi. Ça coûte 8,50 € pour les adultes, 5,50 € entre 8 et 18 ans. Et c'est gratuit pour les moins de 8 ans.
Oui, les enfants peuvent y aller, on l'a dit, c'est sécurisé.
Pour les vacances,
si on veut,
c'est génial.
Oui, si on veut, pour les vacances de la Toussaint bientôt, si on veut dormir pas loin, on va où?
J'ai ce qu'il vous faut. La chambre d'hôte du domaine de la Closade, c'est à 13 minutes de l'ardoisière, des pentes de Travassac. La nuit coûte environ 75 €. On est dans une belle maison du 17e siècle, c'est au bord d'un étang. Puis vous avez une réduction de 10% si vous venez avec votre routard. Pas moi, le guide papier, le routard en papier.
Ah bon, ouais. C'est comme une sorte de passeport, quoi.
C'est ça, exactement.
Si vous voulez en savoir plus et voir à quoi ça ressemble, vous avez les réseaux sociaux habituels que vous connaissez ou europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Alors, on vous propose chaque semaine sur Europe 1, vous connaissez peut-être maintenant, des sites qui témoignent d'un savoir-faire français ou des sites situés en plein air et qui constituent une petite aventure. Celui qu'on vous propose maintenant rentre dans la catégorie des sites du patrimoine. C'est un monument unique en France, j'ai dit tout à l'heure peut-être dans le monde. Il s'agit de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, notre chasseur de sites. Gavin Clemente Ruiz, ambassadeur du guide du Routard, va vous dire pour commencer où se situe exactement cette chapelle, car c'est une chapelle.
Exactement, William, c'est la chapelle catholique Notre-Dame du Haut à Ronchamp. C'est situé au sud du massif des Vosges, dans le département de la Haute-Saône.
Alors pourquoi je dis, mais on dit que cette chapelle est unique?
Eh bien, parce qu'elle ne ressemble pas à une chapelle. Si on la regarde, c'est ça qui m'a plu.
C'est vrai, c'est tellement moderne. Quand on la voit de loin comme ça, on ne sait pas.
Ben, on dirait presque une antenne parabolique en béton blanc posée comme ça au sommet d'une colline verdoyante. C'est vraiment très spectaculaire, c'est très beau. Moi, je trouve ça très beau. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, ce sont les architectes qui l'ont construite. Trois architectes de renom. Ah ouais. Le Corbusier d'abord, Jean Prouvé ensuite et Renzo Piano pour finir.
Et oui, il est venu là lui aussi, Renzo Piano. Alors, il faut savoir, c'est le même qui a construit le centre Pompidou à Paris.
Hein. Lui-même.
D'accord. Il a mis des tuyaux partout ?
Non, je vous rassure. À Ronchamp, il a construit le monastère Sainte-Claire. C'est un bâtiment qui s'intègre, mais complètement dans le paysage, avec des toitures végétal, avec de l'herbe, et des matériaux qui laissent passer la lumière. C'est vraiment très spectaculaire.
Ce monastère-là, il est à côté de la chapelle ?
Exactement, bon. Juste à côté. C'est un ensemble.
Bon, d'accord. On va d'abord s'intéresser à la chapelle, et puis après, on parlera du monastère. Nous sommes en ligne avec Mme Morgane Blanc-Bonniou, directrice du site la colline Notre-Dame du Haut. Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, rappelez-nous quand cette chapelle a été construite.
Alors, cette chapelle a été construite après-guerre en 1955.
Mais voilà. C'est le Corbusier qui avait été chargé de ça?
Oui, c'est le Corbusier qui a été appelé pour ça. Souvent, les gens pensent que le Corbusier arrive un petit peu benoîtement sur le lieu, mais c'est un lieu religieux depuis le XIIe siècle et la chapelle qui était en place pendant l'occupation a été bombardée. Et après-guerre, le Corbusier a été appelé pour imaginer un nouveau lieu, une nouvelle chapelle Notre-Dame-du-Haut.
Mais je me suis demandé pourquoi on avait fait appel à le Corbusier qui était l'empereur de la modernité. Et on s'est dit, tiens, on va tenter un coup là, c'est spectaculaire, parce que c'était pas son habitude de construire des chapelles, franchement.
Alors non, pas du tout, surtout qu'il n'est pas particulièrement croyant, il n'était pas particulièrement croyant, mais effectivement, c'est ce côté révolutionnaire dont vous parlez qui a attiré la commission d'art sacré et les propriétaires du lieu à se dire qu'ils avaient envie d'imaginer quelque chose de nouveau dans l'espace sacré et donc de faire appel à quelqu'un de révolutionnaire.
Je suppose quand ils ont vu le projet, ils étaient peut-être un peu surpris, mais enfin, c'est eux qui l'avaient demandé. Alors expliquez-nous, oui.
C'est-à-dire que le Corbusier, une des conditions, un des arguments qu'il a fait venir, c'est qu'il pourrait faire ce qu'il voudrait. Donc une fois qu'on était dedans, allez jusqu'au bout.
Ah ouais, c'était trop tard, c'était scié.
C'est ça.
Non mais c'est magnifique le site. Alors expliquez-nous ce qu'a fait exactement le Corbusier et ce qu'a fait ensuite Jean Prouvé.
Alors, le Corbusier, il a commencé déjà par faire deux petites maisons en avant de la chapelle, et notamment une maison pour héberger au départ qui s'appelle l'abri du pèlerin, pour héberger au départ les ouvriers qui ont construit la chapelle,
qu'on
ne fait pas à la maison le soir, et qui sont aujourd'hui des maisons une maison que l'on peut visiter. Donc, il a commencé par ces deux petites maisons, et ensuite, évidemment, le joyau qui est la chapelle Notre-Dame-du-Haut. Jean Prouvé, quant à lui, il est intervenu un peu plus tard, parce que le Corbusier, dans son idée, il n'y avait pas de cloche dans la chapelle, parce qu'il avait imaginé un projet électroacoustique très moderne, mais les fonds de reconstruction n'ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Et donc en 1975, Jean Prouvé est intervenu pour faire un portique extérieur pour poser les cloches et que l'on puisse sonner les cloches sur la chapelle.
Ah oui, donc ils n'ont pas travaillé en même temps, ensemble.
Non.
D'accord. On dit que le Corbusier a dessiné la chapelle d'un seul coup de trait, comme un artiste, quoi. C'est vrai ou pas?
Oui, c'est ce qu'on dit, qu'en fait, il est arrivé sur le lieu, alors il a fallu le convaincre de venir, ça n'a pas été simple.
Ah bon?
Et quand il est monté,
il fallait quand même qu'il voit le site, non?
Ah oui, mais c'était même avant d'accepter qu'il a fallu le faire venir. Et effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'il a grimpé la colline qui était pelée, parce que les bombardements ont fait que beaucoup d'arbres étaient par terre. Il y avait encore les ruines, etc. Qu'il a été pris par cette vue à 360 degrés, par le lieu, par le calme, et qu'effectivement, il a sorti, il a dessiné pendant 3-4 heures sur le lieu, et que dans le train, en rentrant, il a quasiment posé ce qu'allait être le lieu.
D'accord. Alors, et j'espère que vous avez gardé, je ne sais pas, ou alors lui ou sa famille, les dessins originaux.
Oui, bien sûr, ils sont conservés à la Fondation Le Corbusier à Paris.
Ah, d'accord.
Ouais.
Alors, on l'a dit, d'extérieur, c'est très étrange, ce bâtiment. C'est moderne à l'époque, mais ça l'est encore aujourd'hui. C'est ce qui fait sa qualité, me semble-t-il. Mais elle est stupéfiante pour d'autres raisons. À l'intérieur, on n'est pas au bout de nos surprises. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Dites-nous ça.
Ah, alors ce qu'on voit, c'est de l'espace et de la lumière, comme savait le faire Le Corbusier. Effectivement, comme vous le disiez, elle ne ressemble pas du tout à une chapelle traditionnelle, donc elle n'est pas en croix. Donc quand vous rentrez, vous n'avez pas les éléments habituels que vous attendez à voir. Il n'y a pas de nef, il n'y a pas de transept, il n'y a pas tout ça. Mm-hmm. C'est un espace large, qui a une forme qu'on ne comprend pas très bien, avec une coque, un toit qui est courbe. Mm-hmm. Mais ce qu'on ressent, c'est l'entrée de la lumière aux différentes heures du jour. Il a construit quelque chose autour de la lumière qui est spectaculaire. Alors il y a ce qu'on voit, et puis il y a aussi ce qu'on ressent, surtout. On ressent un apaisement, une paix qui est extraordinaire. Alors ça, c'est quelque chose qui se vit. Hein. C'est difficile à exprimer, c'est assez indicible. Mais effectivement, au-delà de l'architecture, c'est ce que ça a construit dans l'expérience du lieu.
Oui, mais si je me souviens bien, il l'avait dit à l'époque, je voudrais un lieu de silence, un lieu de paix.
C'est le cas. Eh bien oui, c'est le cas. Il a dit un lieu de silence, de prière, de joie intérieure. Et je pense que le pari est parfaitement réussi.
Alors, il y a des travaux de restauration qui ont été retardés pour cause de Covid. Le chantier va redémarrer, je suppose.
Ah ben on espère, oui. C'est vrai que le Covid a réussi à aplatir notre planning prévisionnel. Normalement, on redémarre parce que l'hiver n'est pas une saison propice à ouvrir des fissures en béton. Donc normalement, le chantier doit redémarrer au printemps prochain.
Voilà, alors si vous passez dans la région, je dis ça à nos auditeurs, arrêtez-vous là-bas, c'est un endroit unique à tout point de vue. Merci beaucoup, Morgane.
Merci à vous, merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Alors, Gavit, il faut un peu de temps pour visiter ce lieu, sans compter le monastère dont on parlait tout à l'heure.
Exactement, où vivent encore des nonnes sur place. Et bah, pour apprécier ce lieu de silence, de prière et de joie intérieure, il faut environ 1h, 1h30. On a vu qu'on pouvait encore visiter jusqu'au printemps, il n'y aura pas les travaux tout de suite. On peut y aller tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h. Et il faut compter environ 9€ pour un adulte pour visiter.
D'accord. Et comme on le fait à chaque fois, quand on vous parle d'un lieu comme ça, exceptionnel en France, on peut y rester, en tout cas pour manger et peut-être pour dormir.
Et ben j'ai trouvé ce qu'il vous faut, c'est juste à côté, c'est au pied du parc, ça s'appelle la maison d'hôte du parc, au pied de la colline de la Chapelle. Vous êtes dans une belle maison bourgeoise avec un jardin à l'anglaise, vous avez un petit dîner sur réservation à 29€ avec entrée, plat et dessert.
C'est pas cher ça, 29€.
29€, c'est un régal après les saveurs de l'esprit un peu...
C'est ça.
Les saveurs de l'estomac.
Bon, vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez regarder ça sur vos réseaux sociaux habituels ou sinon sur europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Le troisième site dont nous allons parler aujourd'hui va nous permettre de mettre en avant un savoir-faire français qui s'exprime particulièrement dans une célèbre cathédrale, celle de Chartres. Il s'agit de l'art du vitrail. Et avec Gavin, Clément et Ruiz, vous allez visiter l'une des plus belles collections qui existent en France. C'est pour ça qu'on s'arrête là-bas. Alors, où sommes-nous exactement? J'ai dit Chartres, mais ça ne suffit pas.
Bah oui, on est à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Vous ne pouvez pas la louper. C'est la cathédrale qui compte 176 vitraux. Ils n'ont pas été endommagés pendant les deux dernières guerres mondiales, tout simplement parce qu'ils avaient été démontés.
Oui, là, il y a une bonne explication. Mais souvent, les églises, c'est arrivé dans ces lieux du bombardement, les églises étaient épargnées. Alors, moi, j'ai des souvenirs scolaires à propos de cette cathédrale. Je me souviens que les bouquins, ils parlaient du bleu de Chartres. Ça a un lien avec les vitraux ou pas?
Il y a le bleu européen, puis il y a le bleu de Chartres, vous avez raison. Carrément, c'est à Chartres qu'on trouvera ce fameux bleu qui utilise du cobalt qui venait de Russie. C'est un bleu si limpide, si lumineux, qui est vraiment très beau avec la lumière qui transperce dans la cathédrale. Placez-vous, alors là, je vous donne un petit conseil, devant le vitrail de droite, appelé aussi l'arbre de Jessé, pour apprécier...
Jessé, c'est quoi?
Jessé, c'est dans la Bible.
J-E-2-S-E.
Exactement. Et vous pourrez apprécier toutes les nuances de ce fameux bleu de Chartres.
Non, mais le vitrail, à l'époque, Moyen-Âge à peu près, c'était presque un outil de communication, finalement.
C'est ça qui me plaît aussi. Là, à l'époque, tout le monde connaissait, ou plus ou moins, j'ai envie de dire, la symbolique des couleurs. Alors, il y a le bleu de la robe de la la Vierge Marie.
Ah, c'était la Vierge Marie, d'accord.
Il y a le rouge pour le, qui symbolise le mal, il y a le jaune qui parle de Dieu.
Oui, parce que c'est lumineux.
Exactement,
d'accord.
Et c'est le soleil, on monte au ciel. Soleil, c'est une façon, en quelque sorte, d'enseigner l'histoire biblique, même à ceux qui ne savent pas lire à travers les images. On dit qu'avec la lumière qui passe au travers du vitrail, c'est la présence divine qui se manifeste aux hommes. Et là, à l'intérieur de la cathédrale de Chartres, on s'en rend compte vraiment.
Non, mais pour tout savoir sur le vitrail, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, il y a la cathédrale, bien sûr, mais il y a d'autres endroits à Chartres.
Eh bien oui, il y a le Centre international du vitrail. Rien que ça, c'est à deux pas de la cathédrale, vous ne pourrez pas le manquer. C'est un complément, j'ai envie de dire, presque naturel à la visite de la cathédrale. Et puis, on peut aussi, si on le souhaite, apprendre à faire son propre vitrail à Chartres.
Oui, voilà, merci Gavitz. Et c'est pour ça qu'on s'arrête aujourd'hui dans ce lieu-là. Apprendre à faire son propre vitrail. Je ne sais pas, mais à mon avis, il n'y a pas 50 centres internationaux du vitrail. Hein.
Non,
il y a que là.
Hein. Il est international, c'est là qu'on apprend tout sur le vitrail.
Bon, c'est bien de le signaler. Alors, nous sommes en ligne avec Kevin Picole de l'atelier Picole. C'est aussi simple que ça. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Alors,
bonjour William.
Le vitrail, c'est une affaire de famille chez vous, là, à l'atelier Picole, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, mon père, il a monté l'atelier il y a 39 ans. et donc, on travaille ensemble depuis 22 ans maintenant.
D'accord. Un monsieur comme vous et comme votre papa qui fait un vitrail, on dit quoi ? Un maître verrier ?
Alors voilà, un maître verrier. Hein. Alors le vitrailliste, c'est à la base plus la personne qui travaille dans l'atelier. Hein.
Oui.
Et le maître verrier, c'est celui qui gère et également qui est capable de faire un vitrail donc de A à Z.
Oui, c'est le boss quoi.
Voilà, en gros, c'est
oui,
un
mais
peu ça.
Votre papa avait fait des études, comme quoi il fallait savoir dessiner, assembler les couleurs.
Oui, tout à fait. Hein. Il avait fait les beaux-arts. Ensuite, il est parti donc dans la publicité. Hein.
Mm-hmm.
Et il a été recruté par un grand atelier chartrain il y a maintenant 45 ans mm-hmm. pour être en tant qu'artiste peintre.
Et vous avez suivi également un cursus.
Du tout. Nous, on n'a pas du tout le même parcours. Enfin, on n'a pas le même parcours avec mon père. Alors moi, à la base, c'était pas le métier. C'était un métier qui me faisait rêver par rapport aux couleurs, aux formes, mais qui me faisait pas rêver par rapport au fait de tout le temps travailler. Quand on est jeune, on se dit on va pas avoir de week-end, exposition.
Ah ouais, déjà.
Donc, à la base. Voilà, donc...
T'es saoulé, voilà. Kevin, vous êtes le fils
on
de votre
rien,
père.
Hein, rien. Tout à fait, et au final, je me suis baigné dedans et j'en suis jamais ressorti. Et je pense que j'espère en faire comme lui. Il est à la retraite depuis 12 ans et il est toujours tous les jours à l'atelier. Quand
même. Ah ouais.
Donc,
non.
Ah,
c'est drôle
ans,
ça. Il vient tous les jours.
Tous les jours, c'est un passionné.
et vous ne lui dites pas, ça ne vous viendrait pas à l'idée, ni à vous, ni aux vitraillistes, il faut nous lâcher maintenant un peu, papa.
Ouais, mais on a toujours... C'est un métier où on apprend tous les jours, en fait.
Ah ouais
que ce soit par rapport aux cuissons, à trouver aussi des nouvelles façons de travailler. Donc, on apprend tous les jours. Donc, je pense que forcément, quand on est passionné...
Mais ce qu'on veut savoir, nous, c'est votre travail. Dans quel cadre vous créez des vitraux ? Comment et pourquoi on crée des vitraux encore aujourd'hui ? Au Moyen-Âge, je comprends, mais aujourd'hui, ils sont là, ils ne bougent plus.
Alors oui, parce que c'est vrai qu'à un moment, il y avait les vitraux, les gens, il y avait une forte connotation religieuse.
Ah oui, ah, c'est très clair.
Et c'est vrai que maintenant, c'est plus passé dans un principe de décoration.
Oui.
C'est-à-dire que les gens vont beaucoup, par exemple, beaucoup de Parisiens vont nous commander des vitraux en style un peu brisu, pour pas être, pour pas qu'on voie ce qui se passe à l'intérieur de chez eux, tout en laissant passer la lumière,
d'accord.
Par exemple.
Alors c'est plus je comprends.
En création, c'est vrai qu'en création d'édifices religieux, il y en a pas des masses.
Eh ben non, il faut qu'atelier vive. Donc vous créez des vitraux pour des particuliers, quoi.
Voilà, on crée, on restaure, parce qu'il faut savoir qu'un vitrail, c'est pas éternel.
Ouais.
Un vitrail, à peu près au bout d'une centaine d'années, il a besoin en fait d'une remise en plomb. C'est-à-dire qu'on va chercher les vitraux, on les ramène à l'atelier, on dessertit chaque morceau de verre pour le reconstituer et remettre du plomb neuf et
alors,
le réinstaller.
Ça nous intéresse aussi pour ceux à qui on recommande de visiter la cathédrale et de bien regarder ces vitraux du XIIe siècle, c'est qu'on peut apprendre quand on va là-bas à faire un vitrail.
Oui, tout à fait. On donne donc les gens peuvent venir avec une réservation.
Oui.
Ils nous réservent un créneau et donc du coup ils peuvent venir faire à peu près pendant 2h30 leur propre création.
Ah,
ils
d'accord.
repartent avec, en fait.
Ah oui, on repart avec. Alors,
voilà.
on découpe le verre, il y a la coloration.
C'est ça.
On peint. Est-ce que le visiteur, il peut le faire le sertissage aussi au plomb?
Voilà. Alors, il n'y a pas la peinture, parce que les peintures, ça demande à peu près une douzaine d'heures de cuisson la montée et le refroidissement. Mais par contre, nous, on prépare déjà en amont. Alors, les personnes découpent le verre et on prépare en amont une pièce centrale qui s'appelle du fusing. C'est de la fusion de verre qu'on a déjà cuite. Mmh. Et ensuite, les gens vont pouvoir également sertir de plomb, souder et mastiquer pour qu'il soit rigide et au cas où étanche.
Et il vous faut un nombre précis de
non,
visiteurs
c'est à,
c'est à la carte,
non,
formidable.
C'est à la carte.
C'est bien,
c'est à
ça.
La carte parce qu'on veut vraiment que ça soit accessible à tous. Et d'ailleurs, il n'y a pas spécialement d'âge pour venir.
Bon.
Ça peut, voilà.
Et après, on repart avec ce qu'on a fabriqué.
Voilà, tout à fait. Hein, tout à fait hein. Donc, on prend aussi bien des maternelles que des personnes qui sont à la retraite, qui veulent se faire plaisir. Enfin, ça
Parfait.
Peut vraiment... C'est très varié.
Bon, ben, merci beaucoup, Kevin.
Bah, non, c'est moi qui vous remercie. Hein.
Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
Également, bonne journée à vous.
Au revoir. Gavins, ça coûte combien, au fond, cet apprentissage?
Alors, si on veut juste venir visiter l'atelier Picole, ça coûte 5,50 € pour la visite, pas très cher. Et puis, si on veut faire l'atelier, c'est 25
oui.
euros. 25
donc,
euros.
Donc, on se fabrique un vitrail perso.
Qui sera rien qu'à soi et qu'on aura créé nous-mêmes.
Pièce unique,
on aura appris à le faire soi-même, on aura compris comment ça marche et on peut repartir et l'installer sur la table basse ou l'offrir à belle-maman.
Par exemple. Regardez à quoi ça ressemble. Il y a une photo d'un vitrailliste et vous verrez comment il travaille dans cet atelier. Vous regardez ça sur vos réseaux sociaux ou alors sur europe1.fr. Je vous propose, comme chaque samedi dans cette émission, d'entendre maintenant les confidences d'une personnalité que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est Michel Bernier, l'actrice humoriste qui va évoquer avec Daniel Moreau sa région de cœur, puisque c'est ça l'objet de cette séquence. Sa région, c'est la Meuse. C'est là que la grand-mère... sa grand-mère, c'est la maman du professeur Choron. Et elle était là-bas garde-barrière. Ce sont des souvenirs que Michel garde précieusement.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Michel.
Bonjour Daniel.
Alors j'ai envie que vous m'emmeniez sur les traces de votre enfance dans un département assez méconnu, la Meuse.
Oui, alors la Meuse, pour moi, c'est mon enfance avec ma grand-mère, qui était donc garde-barrière. À une époque où il n'y avait pas de barrière automatique et il fallait que ma grand-mère, eh ben, elle ouvre les portes et elle ferme les portes à chaque fois que le train allait arriver. Et on peut imaginer en plus qu'à l'époque, il fallait faire confiance aux gens parce qu'elle n'avait pas de diplôme. Hein. Et donc, c'était parce qu'elle était femme de cheminot qu'elle a eu ce travail. Et donc, il fallait lui faire confiance, hein, parce qu'autrement, des accidents, il y en aurait eu beaucoup. Ma grand-mère a vécu toujours aux horaires des trains. Et moi, je suis devenue un peu comme une casse-pied de l'heure, je pense, grâce à elle, parce qu'il fallait être à l'heure et qu'elle courait. Et il fallait qu'on soit, même quoi qu'elle fasse, il fallait qu'on soit à l'heure pour ouvrir les portes ou fermer les portes.
Alors, c'était dans quel petit village, dans quel coin? Et les paysages que vous avez vus comme ça, petite, avec votre grand-mère, est-ce que vous pouvez nous les décrire?
Alors, écoutez, ça se passe à côté de Clermont-en-Argonne, dans le 55, on va dire, entre Verdun et Clermont-en-Argonne, un petit village qui s'appelle Aubréville, et où mon père et ses deux sœurs et mes tantes ont vécu voilà, leur enfance aussi. Et donc, moi, j'ai gardé mes racines là-bas parce que j'ai la maison familiale et que c'est très important pour moi, mes enfants, d'avoir cet endroit, cet écrin un peu hors du monde et hors du temps, voilà, parce qu'on y est bien et qu'on s'y sent bien, parce que c'est une région extrêmement vallonnée, extrêmement belle. Les saisons sont très marquées. L'hiver, c'est l'hiver, l'été, c'est l'été, le printemps, c'est le printemps. et que c'est très verdoyant, vallonné. Enfin, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a vraiment des belles balades à faire.
Justement, si j'ai envie d'aller, si nos auditeurs ont envie d'aller visiter la Meuse, qu'est-ce que vous leur conseillez? Je crois que déjà, il y a la forêt d'Argonne qui n'était pas très loin. Alors, de...
La forêt de l'Argonne qui est vraiment extrêmement dense et touffue et qui est sur des kilomètres et des kilomètres et qui est vraiment magnifique. On n'est pas loin de Varennes-en-Argonne, là où a été arrêté Louis XVI. Donc ça, c'est des balades à faire. Il y a tout un chemin que j'aime beaucoup, qui va de Verdun pratiquement jusqu'à Varennes, qui traverse une partie de la forêt vers Avaucourt, ça s'appelle. Et là, on traverse des petits villages magnifiques. Vraiment, c'est très agréable. Les gens sont gentils comme tout. En plus, les Meusiens sont des gens très accueillants et charmants. Et puis, il y a tout le côté, là, c'est un peu plus vers la Marne, mais vers Sainte-Menou, si on est gourmet, c'est quand même la capitale du pied de porc.
Ah.
Voilà, du pied de cochon. Ça, il faut le savoir.
C'est un argument, c'est ça.
Ah ben, c'est un grand argument pour les amateurs, voilà. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de gîtes et beaucoup de... Voilà, c'est une région qui commence un peu à éclore en tourisme, on va dire entre guillemets, un peu normal et pas simplement en tourisme, évidemment, par rapport à l'histoire de cette région.
Oui, c'est ça, c'est une région riche en histoire. Eh bien, écoutez, je pense qu'ils vont refuser du monde grâce à vous et la façon dont vous nous avez parlé de la Meuse.
Et la Mirabelle, avec alors le fruit magique qu'est la Mirabelle et dont on fait un alcool avec modération, évidemment, voilà, qui est délicieux et les pâtés lorrains et tout ça. Enfin, vraiment, c'est des régions à voir, à vivre. C'est vraiment... nous, on adore aller là-bas.
Ben voilà, on fait une belle randonnée dans la forêt d'Argonne et après, on mange du pied de porc. Écoutez, moi, j'adore ce programme. Merci beaucoup,
voilà.
Michel.
Merci à vous, Daniel. À très bientôt.
Oui, à bientôt. Au revoir, Michel. Merci, Daniel. Alors, je vous signale que Michel Bernier reprendra la route avec son spectacle qui s'appelle Vive Demain. C'est un one-man show, un one-woman show, plein d'auto-dérision et d'optimisme. On en a bien besoin en ce moment. Elle sera, d'ailleurs, si vous passez par Paris, à la salle Pleyel. Au mois de mars, mais je vous en reparlerai d'ici là. Et puis de toute façon, comme elle est en tournée, elle passera forcément près de chez vous.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dernier épisode de ce samedi en France, aujourd'hui avec un lieu insolite. C'est un lieu du savoir-faire, un lieu du patrimoine. Et ça, c'est déjà fait. Mais voici un lieu en plein air. Avec Gavin Clément Ruiz du Guide du Routard, on vous propose une activité originale à pratiquer, c'est mieux à plusieurs, ou en famille, ou avec des amis, ou avec tout le monde. Ça s'appelle Alta Lumina. Et alors, ça se passe où, Gavin?
Alors, imaginez, William, on est en pleine forêt, on est dans la station de ski des Gers, la nuit est tombée, et sur près d'un kilomètre, vous allez être entraîné dans une aventure où tous vos sens vont être mis en éveil. Un peu comme si vous entriez dans une forêt magique.
Pourquoi magique?
Parce qu'il s'agit d'une balade poétique, mise en lumière et en musique au milieu des arbres dans la montagne.
Alors moi, j'ai une photo sous les yeux. Il y a un gigantesque portique sous lequel on passe. Il y a marqué Alta Lumina. On dit Lumina ou Lumina?
Lumina,
d'accord. Et puis après, je vois beaucoup de lumière. On va expliquer un peu mieux ça que je viens de le faire. On a en ligne Maxence Clémenceau, qui est le responsable d'Alta Lumina pour la station des Gers. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de cette promenade, une fois qu'on a passé le portique dont j'ai la photo sous les yeux là?
Alors, vous allez rentrer dans un univers un petit peu féerique, un petit peu magique, comme vous l'avez déjà très bien présenté. Et ça va être l'opportunité, le temps d'une balade, d'avoir un petit peu une nouvelle expérience sur le monde, une nouvelle expérience de la forêt. On va utiliser tout ce qui est donc la technologie, c'est-à-dire le ton, la lumière, la vidéo, pour vous emmener dans un monde un petit peu différent, le temps d'une balade.
Alors, le temps d'une balade, mais au cours de la promenade, en fait, vous racontez une histoire.
C'est ça. Alors, c'est un concept assez nouveau et c'est un petit peu ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. C'est-à-dire que oui, il y a une histoire. Je dirais que c'est un petit peu le fil conducteur de l'expérience. mais ce n'est pas un petit peu comme si vous alliez au cinéma ou au théâtre, où vraiment l'histoire va être l'élément clé, et finalement, si vous n'avez pas vu toute l'histoire, vous avez un petit peu perdu du film ou de l'expérience.
Oui, mais l'histoire, on la vit en même temps, quoi. C'est ça qui est rigolo.
Exactement. Donc vous allez, je vais essayer de pas trop en dévoiler non plus, mais vous allez suivre donc ce colporteur de musique au fur et à mesure de son périple, et en fait vous allez un petit peu voilà vivre l'expérience avec lui. Vous allez passer par plusieurs scènes avec lui.
Oui, alors il y a de la lumière, tout ça est éclairé, rassurez-vous. Vous n'êtes pas là en train de vous dire mais je tourne à gauche ou à droite. Non, tout ça est bien balisé. Ça dure combien de temps quand on fait tout le parcours donc ?
Alors. C'est une visite que les gens vont faire à leur propre rythme, d'accord, puisqu'ils ne sont pas guidés par quelqu'un, comme ils pourraient l'être, par exemple, dans un musée, etc.
Oui.
Donc, les gens mettent en moyenne entre 45 minutes et une heure et quart. On a toujours des gens qui aiment vraiment, qui flânent davantage et qui peuvent y passer presque jusqu'à deux heures. Mais voilà, le temps moyen, c'est 45 minutes, une heure et quart.
D'accord, donc on s'arrête pour regarder un peu mieux ou pour écouter un peu plus la musique qui est diffusée dans la forêt. On peut y aller avec la famille, je disais tout à l'heure. Oui, les enfants, ça marche ?
Oui, c'est ça. C'est vraiment un spectacle tout public. Et nous, c'est vraiment ce qui nous tenait à cœur au geste, c'était de proposer une offre qui soit tout public. Parfois, vous savez, on va au ski avec des gens qui ne skient pas forcément. Et bien là, voilà, c'est l'opportunité à la tombée de la nuit de se retrouver.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que, imaginons, on va rentrer bientôt dans une saison où vous allez avoir de la neige. Parce que c'est ça le but de l'installation, c'est de diversifier les activités autour de la station, c'est ça ?
Exactement, c'est vraiment ce qui est en train de ressortir maintenant, surtout avec l'année dernière, l'époque un petit peu du Covid, où on nous a dit que les stations devaient se diversifier.
C'est ça.
Nous, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'être un petit peu avant-gardiste, puisqu'on a ouvert juste l'année dernière. L'idée, c'était vraiment de diversifier la station, de proposer une offre un petit peu différente où tout le monde pouvait s'y retrouver à la tombée de la nuit.
Oui, c'est ça. Et chaque station essaye d'être un peu plus originale par rapport à celle d'à côté. Mais là, vous, à ma connaissance, il n'y a pas de parcours du même genre. Alors, et c'est ouvert, là, vous êtes ouvert ou vous allez bientôt ouvrir ?
C'est ça. Ben nous, comme on est ouvert toute l'année, là, pour le moment, on est encore ouvert donc tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, également tous les soirs pendant les vacances de la Toussaint.
Bon.
Et puis après, on va faire un petit peu de maintenance avant l'hiver et on reprendra donc début décembre.
Parfait. Très bien. Merci pour cette description, Maxence. Bonne journée et j'espère que ceux qui nous ont entendus feront un tour du côté des G. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Alors Gavin, ça coûte combien pour faire la longue balade et faut-il réserver ?
Alors il faut aller sur le site internet altalumina.com. Ça coûte 19 euros pour un adulte, 10 euros pour les enfants de 5 à 15 ans et c'est gratuit pour les moins de 4 ans. On l'a entendu, c'est ouvert pour les vacances, c'est ouvert le reste de l'année, il n'y a pas de souci à la tombée de la nuit. Et vous pourrez réserver sur altalumina.com.
Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire parce qu'après la séance de ski, ou quand ça sera le cas, ou en tout cas à la nuit tombée là, en ce moment. Allez, on termine avec un récapitulatif de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Notez bien.
Alors, nous avons parcouru l'une des dernières ardoisières de France. C'est à Travassac, en Corrèze. Et il n'y en a pas beaucoup. Si vous pouvez vous déplacer, allez-y, profitez-en. Nous avons aussi gravi la colline de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, en Haute-Saône, c'est un monument unique en France créé par des architectes mondialement connus, nous l'avons vu. Nous avons aussi appris à créer notre vitrail à Chartres, dans l'Eure-et-Loire. Et nous avons déambulé dans la forêt enchantée des Gets avec Alta Lumina en Haute-Savoie.
Alors, à chaque fois dans l'émission, on se propose de vous parler rapidement d'un livre ou d'un film ou d'une expo qui se passe en France, puisque c'est quand même le but du jeu de Samedi en France. Cette semaine, vous aviez envie de parler d'un gros chat que beaucoup de gens connaissent.
Oui, j'avais envie de vous parler du chat de Philippe Geluck. Il a imaginé une exposition ambulante. Alors, ce sont 20 chats, 20 gros chats tirés de sa célèbre BD, plusieurs tonnes hein, pour chacun, qui se promènent à travers la France. Alors, il y a eu Paris, il y a eu Bordeaux, et depuis le 2 octobre, c'est la ville de Caen, dans le Calvados, qui accueille ses statues sur le port de Plaisance, sur la place de la République, et on a aussi devant la mairie. Et vous aurez jusqu'au printemps pour les admirer. C'est totalement gratuit, donc c'est vraiment super d'aller apprécier ce gros chat qui se promène à Caen.
Merci, merci monsieur Clément Ruiz. L'émission est terminée maintenant. Merci à Marie Jacquet, à Christophe, Pierrot, à Daniel Moreau, à Gavis Clémenté.
Ah oui, c'est moi.
Mais c'est vous. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites que vous ne connaissez peut-être pas. Bon après-midi sur Europe 1.